Peut-être qu'on se fait avoir par la science. Est-ce que celles et ceux qui fabriquent la science nous racontent des histoires? Les scientifiques sont-ils des manipulateurs?
Alors, c'est sûr qu'ils manipulent, hein, effectivement, dans leur laboratoire, des récipients, des béchers, etc. Mais ils manipulent aussi parfois des histoires, c'est indéniable.
Microsciences, un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microsciences. C'est Antoine Houlou-Garcia qui va nous raconter ses histoires de manipulation. Il est chercheur associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris, et mathématicien. Il est également auteur du livre paru aux éditions Albin Michel « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton ». La pomme ? Elle ne serait donc pas tombée sur la tête du grand scientifique, provoquant certes une bosse, mais aussi un cri du type « Eureka ».
Ni sur sa tête, ni par terre. Alors, en réalité, bon, c'est l'histoire qu'il raconte lui-même, hein, qu'il a vu une pomme tomber dans le jardin de sa mère quand il avait 20 ans, et que ça lui a donné tout à coup l'éclair de génie, la compréhension de ce que c'est que la théorie de la gravitation. Alors, en réalité, quand il commence à raconter ça, en fait, à la fois à sa nièce et à ses futurs biographes, il a 80 ans, c'est-à-dire que c'est 60 ans après les faits. Il raconte ça probablement parce que il veut être reconnu dans l'histoire, dans la postérité, comme celui qui a inventé la théorie de la gravitation, tout seul comme un grand.
Donc, Isaac Newton n'a pas inventé la théorie de la gravitation ?
Certes, il l'a inventé, mais pas tout seul comme un grand. Et en fait, bon, on a fini par y croire. Et c'est vrai qu'on lui associe cette histoire-là qu'il a lui-même inventée à dessein. La théorie de la gravitation, elle s'est construite vraiment au fil des siècles. On a déjà des prémices hein, chez Aristote, voilà, qui permettent de comprendre que les choses tombent vers le centre de la Terre. Aristote l'énonce déjà. Alors après, formaliser tout ça mathématiquement, ça s'est fait plus tard, ça s'est fait à partir de la Renaissance, mais on a voilà, des noms qui aujourd'hui sont pas très connus. Si vous pensez par exemple à Ismaël Bouliot, je pense que vous avez jamais entendu ce nom-là, eh bien il a fait partie des précurseurs de ce que Newton a fini par parachever.
Pourtant, cette légende de pomme, elle était jolie. Et on a envie d'y croire. Comme au génie de Newton. Il n'y a donc pas de grands génies ?
Alors, il y en a, mais ils sont souvent collectifs. Ils sont souvent, soit dans une équipe, soit dans un moment, par exemple, lorsque, à la Renaissance, on commence à redécouvrir d'autres perspectives de l'astronomie, à comprendre la cosmologie d'une manière nouvelle. Toute la révolution qu'on va appeler copernicienne, elle n'est pas due que à Copernic, par exemple. Elle est due à beaucoup de gens ensemble qui ont travaillé. Et dans la manière dont on perçoit, nous, aujourd'hui, l'histoire, ça se résume souvent à un nom. Ça aboutit à une sorte d'éclair de génie qu'on voit nous, mais qui n'a pas forcément eu lieu à l'époque, parce que c'est plus plein de petits phénomènes qui, agrégés, finissent par donner naissance à une grande théorie.
Mais alors, il n'y a donc pas de petites et de grandes découvertes, juste des étapes dans la connaissance scientifique ?
L'outil qu'on utilise souvent, c'est Google Scholar, qui nous permet d'avoir le nombre de citations de chaque publication scientifique et de créer une hiérarchie des scientifiques, une hiérarchie des découvertes, une hiérarchie des publications. Néanmoins, ça pose un problème parce que je vous parlais là de l'astronomie copernicienne. En fait, on a déjà des découvertes avec Aristarque de Samos dans la Grèce ancienne. On a déjà la découverte qui dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Sauf que ça va être oublié pendant presque 2000 ans et il va falloir attendre Copernic pour remettre tout ça au goût du jour. Copernic d'ailleurs qui avait conscience que Aristarque de Samos avait travaillé sur le sujet bien avant lui. Donc en fait, voilà, la découverte d'Aristarque par exemple, bah, elle est fondamentale. Oui, mais elle a été complètement oubliée. C'est finalement celle de Copernic qui a été retenue. Donc c'est difficile de créer une hiérarchie stricte dans la découverte scientifique.
Il est donc temps de remettre les pendules à l'heure et le soleil au centre de son système. Dans l'histoire des sciences, c'est souvent le dernier scientifique qui potasse un sujet qui en tire la gloire.
Parce qu'il va exprimer la théorie d'une manière plus moderne, donc plus compréhensible pour ses contemporains. Parce que aussi, avec le temps, il y a eu un développement de la science un peu comme un marché, et donc des querelles d'ego, des querelles de précédence, c'est-à-dire qui a trouvé en premier l'idée. Et ça va faire qu'effectivement, les scientifiques, souvent à partir de la Renaissance, vont commencer à vouloir s'arroger vraiment des résultats, ou qu'on va les leur attribuer parce qu'il y a aussi des polémiques assez vivaces entre différents scientifiques. Donc ça permet aussi de créer une légende officielle, un discours très officiel, même s'il est légendaire, mais qui permet de mettre en valeur un scientifique plutôt qu'un autre.
Des égos, des querelles, une recherche de la gloire en s'appuyant sur les travaux des autres. C'est très humain, tout cela. Et ça a dû toujours exister. Mais quand j'y pense, Archimède, son Eureka, son bain, si ça se trouve, c'est du flan.
Alors, c'est toute la difficulté de l'histoire des sciences, en particulier dans l'Antiquité, c'est qu'on a très peu de sources. Eureka, oui, c'est ce qu'aurait dit Archimède en entrant ou même en sortant d'ailleurs plutôt de son bain, en voyant que lorsqu'il s'immerge dans l'eau, le niveau d'eau augmente proportionnellement, augmente strictement du volume du corps qui a été plongé dans l'eau. C'est-à-dire que Archimède se met dans la baignoire, il voit que l'eau monte et il se dit « Ah, ça y est, j'ai compris, on peut exprimer ce qu'on va donc appeler aujourd'hui la poussée d'Archimède ». Ce Eureka, il n'existe pas dans les œuvres d'Archimède. A-t-il existé vraiment ? Probablement pas. En fait, ça nous est raconté par Vitruve, qui est un architecte romain, qui a vécu environ 250 ans après Archimède. Et Vitruve est le premier à raconter cette anecdote. Quand on raconte des anecdotes comme ça sur les grands scientifiques, on est dans une perspective hagiographique, c'est-à-dire on veut vraiment idéaliser la vie des scientifiques dont on raconte des anecdotes, quitte à inventer des choses.
Eh ben voilà. On va découvrir que les grands savants n'ont pas pris de bain et n'ont pas crié « Eureka ».
Évidemment, Archimède a pris des bains dans sa vie, mais on peut dire qu'on n'a aucune raison de croire qu'Archimède ait dit « Eureka » en sortant de son bain.
Archimède a donc pris des bains, nous voilà rassurés, c'est déjà ça. Mais cet égo des scientifiques, il m'intrigue.
C'est souvent un moteur assez important, on l'a avec Louis Pasteur par exemple, le célèbre inventeur du vaccin contre la rage. Le vaccin contre la rage avait été inventé un peu avant lui par quelqu'un qui s'appelle Pierre Galtier. Et Pasteur a tout fait pour faire de l'ombre à Galtier et de fait il a réussi puisque c'est à lui qu'on attribue l'invention. Et c'est vrai qu'on va avoir ça aussi chez Copernic par exemple qui va, alors qu'il a lu qu'il existait des théories géométriques montrant que la Terre devait être non pas au centre, mais autour du Soleil, à tourner autour de lui. Copernic, alors qu'il fait mention de ses travaux dans la première version de son traité sur les révolutions, Copernic va effacer cette mention pour pouvoir être considéré comme le premier à y avoir pensé. Pas seulement le premier à l'avoir démontré de façon moderne, mais même que l'idée soit effectivement la sienne. Oui, il y a une question d'ego qui est très souvent un moteur.
C'est pas beau, tout cet ego.
Non, je pense qu'au contraire, c'est pas forcément grave que les scientifiques puissent avoir parfois un ego démesuré. Ça fait aussi partie des moteurs qui font qu'ils ont cette envie d'arriver à démontrer plus, à construire des théories plus performantes, plus explicatives. Donc ça, je pense que c'est un bon moteur. C'est plutôt à nous, en tant que récepteurs de la science, d'avoir cette distance critique qui nous permette de dire « Ok, effectivement, ce sont des grands scientifiques, ils ont fait des grandes avancées. Pour autant, leurs travaux sont critiquables parce que c'est justement l'ADN de la science qui veut ça. »
L'ADN de la science, on y reviendra. Mais avant cela, si on s'intéressait aux chromosomes et aux histoires d'égo, parce que celles qui ont peut-être dû ravaler souvent leur égo dans l'histoire des sciences, ce sont les femmes.
Oui, et même plus, parce qu'elles doivent affronter beaucoup plus de difficultés. Ça a été le cas, par exemple, pour Hypatie, la mathématicienne grecque d'Alexandrie, du début du 5e siècle, qui a été massacrée. C'est comme ça qu'elle a perdu la vie. Ça a été le cas également pour Marie Curie. Le fait qu'elle ait obtenu 2 prix Nobel ne doit pas masquer le fait qu'elle a failli n'en obtenir aucun des deux, puisque la première fois, elle n'était pas sur la liste. Lorsque l'Académie des sciences françaises envoie sa liste à Stockholm, elle n'y figure pas et il a fallu que Pierre Curie fasse reconnaître tout le mérite de Marie Curie, puisque ce sont vraiment les travaux de Marie Curie qui ont été primés. Pierre Curie n'étant venu en quelque sorte que l'aider, que l'assister dans ses propres travaux. Et puis le 2e prix Nobel qu'elle a reçu, elle a failli ne pas le recevoir à nouveau, parce qu'il y avait une affaire de mœurs. C'était une époque où, en 1911, où Pierre Curie, son mari, était déjà décédé depuis quelque temps. Elle avait une affaire avec un homme qui était, lui, marié. Et le comité Nobel lui a demandé de ne pas venir retirer son prix Nobel, ce qu'elle a évidemment refusé à juste titre. Donc ça montre à quel point il ne faut pas oublier que derrière les exemples positifs qui existent des femmes en histoire des sciences, eh bien, il y a toujours énormément de difficultés.
En fait, il n'y a pas de génie. Il y a des hommes et des femmes, dans une société avec ses problèmes, la misogynie, l'obscurantisme, le nationalisme. Mais curieusement, on aime bien effacer l'humanité des scientifiques.
C'est exactement ça. En fait, on les déifie en quelque sorte. Évidemment, il y en a qui sont quand même un peu plus géniaux que les autres, au sens où ils ont une intuition, ils ont une capacité intellectuelle supérieure, mais pour autant, on ne peut pas dire que ce ne soient pas des humains comme nous. Ce sont des gens qui ont aussi des vies, qui ont aussi des difficultés dans la vie quotidienne, tout simplement, interpersonnelles avec les collègues chercheurs, avec les concurrents scientifiques, avec aussi leur vie en tant que parents, en tant qu'enfants. La science n'est pas construite par des sortes de grands génies, des dieux sur Terre qui nous dépassent. Elle est construite par des gens finalement comme nous, qui font leur job, qui font leur boulot au quotidien. Et puis, bah, voilà, de temps en temps, il y en a qui arrivent à faire des découvertes un petit peu plus éclatantes, qui ont un impact un petit peu plus grand sur l'histoire des sciences. Et les percevoir comme des êtres humains, ça nous fait du bien aussi, parce que ça nous montre que la science, elle est construite de façon humaine, parfois avec des erreurs strictement humaines.
Une science humaine, avec des défauts humains, et parfois de grands besoins de reconnaissance.
Et oui, bien sûr, le marketing scientifique, ça existe depuis longtemps. Pareil, je vous prends un exemple, Louis Pasteur, lorsqu'il vaccine en direct, donc c'est vraiment un événement assez important devant l'Académie de médecine, un jeune garçon qui s'appelle Joseph Jupille, il ne présente pas Joseph Jupille comme un simple patient atteint de la rage. Il le présente comme un héros, presque un héros national, qui a, lui, il a 15 ans, Jupille, à l'époque, et il a sauvé ses petits camarades, plus jeunes que lui, d'un chien enragé, un chien qui avait un comportement extrêmement violent, extrêmement terrifiant. Donc en fait, quand Pasteur se présente devant l'Académie et qu'il vaccine en direct Jupille, il ajoute toute la sauce autour qui fait qu'on ne vaccine plus un patient, on vaccine un héros, et donc... Qu'est-ce que le sauveur d'un héros, sinon un héros lui-même ?
Et l'éthique dans tout ça ?
Alors le manque d'éthique, il a eu lieu d'ailleurs avant, parce que en fait, avant le cas de Joseph Meister puis de Jupille, il y a eu au moins deux cas traités par Pasteur contre la rage, dont au moins l'un des deux cas, la petite fille Julie-Antoinette Pougon est décédée. Et puis même après, il y a eu à nouveau un autre cas avec un enfant de 12 ans qui s'appelait Jules Rouillet, qui est décédé de la rage suite au traitement. Ça ne veut pas dire que ce soit le vaccin qui l'a tué, mais simplement là, dans ce cas-là, le bon Pasteur avec son genre et avec le médecin légiste Paul Brouardel ont étouffé l'affaire. Paul Brouardel est allé devant l'Académie de médecine et a dit « L'enfant n'est pas mort de la rage », ce qui était complètement faux. Il savait qu'il mentait, Pasteur aussi. Et ça a permis, comme le dit Brouardel lui-même, de ne pas faire perdre 50 ans à la science. Donc oui, le manque d'éthique fait aussi partie de la science. Parfois, ça tombe bien. Dans le cas de Pasteur, on va se dire « Bon, bah, à la limite, il avait raison. » Donc, quelque part, le manque d'éthique a pu lui être favorable. Parfois, ça peut tomber à côté.
Ok. Pasteur avait vu juste. C'est quand même un peu un coup de chance, doublé quand même de travaux de recherche. Cela dit, peut-être qu'aujourd'hui, dans une ère post-Covid, on construit la science différemment.
Même dans l'ère pure Covid, il y a eu des phénomènes comme ça, où on a voulu s'emballer et croire à des traitements un peu magiques, alors que les études qui étaient publiées autour de ces traitements ne démontraient rien. Donc non, on n'est jamais à l'abri.
Bref, c'est un retour au Moyen-Âge.
On a cette tendance, à, quand on veut parler d'obscurantisme, d'âge obscur, on pense au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, en réalité, n'est pas du tout l'âge obscur que l'on croit. Ça aussi, c'est une légende de l'histoire des sciences, mais de l'histoire même plus générale. Mais en tout cas, concernant la partie scientifique, le Moyen-Âge a continué à avancer, à faire des travaux. Et ces travaux-là, d'ailleurs... ont mené à Newton, à Galilée. Ils en sont les héritiers, même si en général, tous ces scientifiques-là ont voulu s'en démarquer. Parce que la Renaissance a voulu vraiment créer une cassure entre le Moyen-Âge et eux-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie continuité, que le Moyen-Âge a été une période de production scientifique très intense.
En fait, l'histoire ne retient que les noms de celles et ceux qui s'en sont bien sortis. Et pas forcément de celles et ceux qui ont aussi eu une intuition, mais qui se sont plantés en beauté. Et nous, le commun des mortels, on a besoin de rockstars scientifiques.
À la fois, ça fait du bien. d'avoir ces grands génies qui, quelque part, nous rassurent. Parce que si on savait, en gros, toute la réalité du travail quotidien d'un Galilée, d'un Newton, d'un Archimède, etc., ça nous ferait moins fantasmer. On aurait peut-être moins de vocation de gens qui se diraient « Ah tiens, je vais faire un doctorat comme ça, après je vais devenir un grand génie, un grand savant de l'histoire. » Pour autant, ça pose aussi un problème, c'est ça le côté double tranchant, c'est que les images qu'on garde de ces grandes découvertes, donc de ces mythes prétendument découverts de cette manière, avec la pomme de Newton, avec l'expérience de Galilée à la tour de Pise, etc., ça nous donne en fait une mauvaise compréhension de la science, ça nous emmène sur un mauvais terrain. Par exemple, lorsque Galilée, donc prétendument, va à la tour de Pise, lance ses deux poids de masse différentes et voit qu'ils arrivent au sol en même moment, ce qui démontre que la chute libre d'un corps ne dépend pas de sa masse, on nous fait croire que cette expérience est géniale, alors qu'en fait elle est bête, et c'est pour ça que Galilée ne l'a pas faite, parce qu'il y a tout simplement des frottements de l'air qui font que les deux poids n'arrivent pas au même moment. Et d'ailleurs, l'expérience a été tentée à l'époque de Galilée par un ennemi de Galilée, et ce qu'il a trouvé, c'est qu'effectivement, les deux poids ne tombaient pas au même moment par terre. Donc en fait, ça nous fait croire à des choses qui sont non seulement fausses, mais surtout bêtes d'un point de vue de compréhension de la science.
Mais peut-être que c'est ça le problème, c'est la compréhension de la science. Ce n'est pas facile, quand on ne connaît pas un domaine, de réfléchir et de se dire qu'une théorie est peut-être fausse. Moi, par exemple, la relativité générale, je fais comment pour la vérifier ?
Alors, je ne dis pas qu'il faut remettre, nous, citoyens, qui n'avons pas fait de science, les découvertes d'Einstein en question. Enfin, moi, pour le coup, j'ai étudié les maths, la science, etc., mais je ne suis pas capable d'aller remettre en question de telles découvertes. C'est vraiment un métier très spécifique que de faire de la recherche en physique théorique de ce point de vue-là. En revanche, ce sur quoi la science s'appuie, c'est justement la remise en cause permanente. Ça, évidemment, si vous prenez la manière dont Karl Popper, par exemple, présente la science, il explique, pour résumer dans les grandes lignes, que toute théorie scientifique est fausse. Simplement, on essaye d'améliorer pour que ce soit un peu moins faux. Et donc, on va du très faux vers le un peu moins faux, avec l'horizon idéal d'une vérité physique totale. Mais qu'on remette en question la science, ça, c'est bien normal. Et la science a besoin de ces remises en question permanentes. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion. C'est quelque chose qui se travaille à partir de la volonté de critiquer les travaux précédents. Pas pour les critiquer pour le plaisir, mais au contraire, pour les affiner, pour les faire avancer.
Faire avancer la science, c'est aussi une motivation des scientifiques. Alors comment la science s'y prend-elle ? Elle échafaude des théories et elle les vérifie dans le monde réel ? Ou c'est le contraire ?
En fait, on a quand même toujours une petite idée a priori. Donc en fait, c'est un peu la difficulté, c'est que l'expérience, l'observation, n'est jamais pure. Elle a toujours une idée derrière la tête qui est la manière dont, a priori, on conçoit le monde. Pas forcément de façon scientifique, mais aussi de façon parfois morale, esthétique, etc. Et donc on a une idée a priori. Si vous pensez par exemple à la manière dont on fait de l'éthologie aujourd'hui, l'étude des comportements animaux, on a très souvent un anthropomorphisme qui est terrible, c'est-à-dire une manière de considérer que les animaux font comme nous on ferait, nous les êtres humains. Donc c'est dur de se détacher de tous nos a priori.
Et il restera toujours des théories farfelues.
C'est une recherche de Newton correspondant à l'arc-en-ciel et au prisme en fait, qui permet de transformer un rayon lumineux en plein de couleurs, donc qui sont en fait exactement les couleurs de l'arc-en-ciel. Et Newton se dit, quand il donc projette ce rayon de lumière à travers un prisme sur un mur, il voit qu'il y a des couleurs et il se dit, il y en a combien des couleurs ? Et la question n'est pas évidente, c'est pas simple, parce qu'en fait c'est quand même des nuances qui peuvent être assez proches. Entre l'indigo, le bleu, c'est quand même pas toujours évident à l'œil de faire une différence. Et Newton va se dire que n'ayant pas d'idée particulière, il va se raccrocher à une autre théorie. La théorie mathématique de la musique, dans la gamme, il y a 7 notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, voilà, ça fait 7. Et du coup, il se dit, puisqu'il y a 7 notes dans la musique, ce serait bien qu'il y ait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Ça montrerait qu'il y a une sorte d'intelligence supérieure, que lui, il appelle Dieu, qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'équation unificatrice. Alors évidemment, il n'y a pas sept couleurs dans l'arc-en-ciel en réalité. Il y en a une infinité, il y a toute la palette des couleurs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on voit quand on prend les différents manuscrits, les différents discours donc à l'Académie royale des sciences, puis son livre sur l'optique, on voit la manière dont il évolue et dont il se convainc lui-même de ce mensonge, dont il a peut-être conscience que il n'y a rien de rationnel là-dedans, mais ça lui ferait tellement plaisir que ça marche, qu'il se laisse convaincre.
Et c'est certainement ça aussi, les scientifiques. Des êtres en recherche de beauté.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Il est temps pour Microsciences de voler vers de nouvelles découvertes, petites ou grandes. Et si cet épisode vous plaît, sachez que nous aussi, nous avons parfois besoin de reconnaissance. Alors partagez-le sur votre réseau social préféré et abonnez-vous sur PlayRTS ou sur toute autre plateforme d'écoute. Microsciences est fabriqué de toutes pièces par celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, qui ouvre la voix. Mathieu Ramsauer, réalisateur qui peaufine les rythmes et les voix. Jérôme Nussbaum, qui enveloppe Microscience de son habillage musical. Andréa Glanville, attaché de production, qui transforme le son en écrit. Et au micro, c'est moi, Uma Camis, journaliste scientifique. À bientôt.